Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Roten sur Judaïk FM.
Sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey. Now I'm wild over honey child.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission mensuelle de l'Institut européen des musiques juives. Notre objectif, vous faire découvrir la richesse et la diversité des musiques juives d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Et en 2018, cette année, nous fêtons les 70 ans de l'État d'Israël. Il y a en effet 70 ans, le 5 iyar 5708, qui correspond dans le calendrier grégorien au 14 mai 1948, David Ben-Gurion proclamait la naissance de l'État d'Israël, l'aboutissement d'un rêve de 2000 ans d'exil, l'aboutissement également d'un mouvement qui avait porté ce rêve, le sionisme. Ce courant, né à la fin du 19e siècle sous la houlette de Theodor Herzl, visait à donner aux Juifs un État indépendant afin d'échapper aux persécutions et massacres auxquels ces derniers étaient régulièrement soumis. Et à la fin de la proclamation de la création de l'État d'Israël, donc en ce jour du 5 iyar 5708, sous les applaudissements, l'ensemble des participants, dans la rue, tous les passants, tous les gens devant leur poste de radio ont entonné cet air ô combien symbolique, la Hatikva. La Hatikva, jouée à la fin de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, un moment ô combien émouvant et un hymne ô combien émouvant. Cette Hatikva que nous venons d'entendre, son origine reste mystérieuse et beaucoup de contre-vérités circulent à son sujet. Alors, j'ai décidé que pour nous éclairer sur l'origine et l'histoire de la Hatikva, j'allais faire venir une spécialiste, une conférencière qui a déjà traité le sujet et qui le connaît très très bien. Il s'agit de Théa Hertz, que j'accueille dans ce studio et j'en suis ravi. Merci Théa Hertz de venir nous rejoindre.
Bonsoir.
Et vous allez présenter le 13 juin 2018 une conférence audiovisuelle sur la Hatikva à la mairie du 3e arrondissement de Paris à 18h dans le cadre du Festival des Cultures Juives. Je redonnerai la date bien sûr à la fin de cette émission. Et cet événement est bien sûr organisé par l'Institut Européen des Musiques Juives. Alors Théa Hertz, vous avez grandi en Israël, pour vous présenter rapidement. Vous avez étudié ensuite la psychologie cognitive à Paris 5 exactement jusqu'au doctorat. Vous avez fait également un MBA à l'université de Tel Aviv. Vous avez exercé en tant que psychologue, mais la musique, et en particulier la musique classique, vous a toujours accompagné, puisque votre mère est une célèbre musicologue et critique musicale de plusieurs quotidiens israéliens, je crois Yedidiot Aharonot et d'autres encore.
Mariv,
pardon, alors il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et en tout cas, c'est ainsi que la littérature et la chanson hébraïque font donc tout naturellement partie de votre bagage culturel. Et comme vous aimez transmettre vos connaissances, puisque la présentation de l'information est d'ailleurs une de vos spécialités, vous présentez donc, comme je l'ai dit, depuis plusieurs années, des conférences musicales autour des moments, des grands moments d'ailleurs, historiques de la vie et de la culture hébraïque et israélienne. Alors ce soir, vous êtes venu pour nous donner un avant-goût de votre conférence sur la Hatikva qui aura donc lieu le 13 juin 2018 à la mairie du 3e arrondissement. Venez nombreux, bien sûr. Alors, ma première question, ce qui va être la suivante, pourquoi avoir choisi ce sujet et qu'est-ce que la Hatikva a de si particulier ?
Hatikva a plusieurs particularités, à commencer par le mode mineur de sa mélodie, ce qui est rare pour le genre des hymnes nationaux. Dans ma conférence, je pointe d'autres particularités. Je me suis penchée sur Hatikva pour trois raisons principales. D'abord, il circule sur le net et ailleurs toutes sortes de spéculations et d'inexactitudes concernant Hatikva, et j'ai souhaité dissiper les malentendus. Ce faisant, j'ai appris moi-même pas mal de choses. Ensuite, j'ai entendu un air très très similaire dans une église catholique, un cantique qui s'appelle « Oh, prends mon âme ». Et enfin, ça relevait ma curiosité. Enfin, Hatikva est née avec la première Aliya de 1882 à 1904, qui, dans l'historiographie, est assez minimisée. J'ai voulu lui rendre sa place, la première.
Alors, ça c'est une première introduction, je suis sûr que vous avez énormément de choses à nous raconter, mais je voudrais savoir un peu comment vous avez étayé vos recherches, vous êtes basé sur quel matériel, par exemple, pour les effectuer ?
D'abord, comme tout chercheur, j'ai cumulé du matériel. Beaucoup de lectures, des livres, des articles par rapport aux pionniers, des archives sionistes, les biographies d'Imbert, les mémoires des pionniers. Et puis, j'ai croisé, vérifié les informations pour démêler le grain de l'ivraie. Ensuite, j'ai retrouvé l'excellente série télé israélienne de 1974, dont les premiers épisodes évoquaient les premières chansons et la vie en Eretz Israël ottomane. Ensuite, j'ai consulté des articles et des conférences, notamment par votre très cher collègue, Edwin Seroussi.
On le salue au passage, d'ailleurs, c'est un grand ami.
Ethnomusicologue, titulaire de la chaire de musicologie à l'Université hébraïque de Jérusalem. Eliyahu HaKohen, nommé le grand prêtre en Israël, expert incontestable de la chanson populaire hébraïque. Tous les deux sont lauréats du prix d'Israël. Un autre professeur de musicologie de l'Université hébraïque de Jérusalem, Don Aran, un professeur de judaïsme de l'Université Tel Aviv, David Assaf, Astrid Baltzan, musicienne musicologue qui a elle-même effectué une recherche sur les origines musicales d'Hatikva, et surtout notre père à tous, Avram Tzvi Edelson, le père de l'ethnomusicologie juive.
Tzvi Edelson qui a publié un certain nombre de travaux déjà dès le début du XXe siècle et ça reste la Bible et la référence, comme vous l'avez dit, de tous les ethnomusicologues juifs.
Absolument.
Je vous laisse continuer.
Y compris certaines mélodies de chansons chantées jusqu'aujourd'hui.
Formidable.
Alors, pour trouver des illustrations et des éléments sonores, j'ai consulté des sites musicaux, outre des canaux YouTube, archives, notamment la Bibliothèque nationale d'Israël, des sites spécialisés, etc. Par exemple, à la Phonothèque nationale, j'ai trouvé un rare enregistrement daté de 1931 d'un enfant au Yémen chantant un mélange d'Hatikva et d'une chanson traditionnelle de Shabazi du XVIIe siècle. Tout aussi important pour une conférence audiovisuelle, j'ai la partie visuelle. Donc j'ai cherché des images et des films et je les ai choisis en fonction de leur qualité esthétique et informative.
Alors, tout ceci, évidemment, nous donne une conférence extrêmement fouillée, extrêmement riche. Et ce qui est formidable, c'est que le format audiovisuel, ici, vous n'aurez que de l'audio et encore une toute petite partie. Donc, j'invite vraiment nos éditrices et auditeurs à venir à votre conférence parce que il y aura des projections, vous pourrez voir des vidéos, des photographies, en plus du son et des explications, bien sûr, de Tehertz. Mais on va revenir donc sur la Hatikva. Vous avez dit qu'elle était née avec la première Aliya, donc celle qui a démarré en 1882, et donc à la Renaissance de l'hébreu comme langue vernaculaire ou langue courante, si vous préférez, des Juifs de Palestine. Et le chantre de cette renaissance est Eliezer ben Yehuda, qui faisait partie de cette première génération de pionniers qui ont encouragé la création de chants populaires en hébreu. Est-ce que c'est comme cela que la Hatikva est née ?
Atikva est le maillon entre les auteurs du 19e avec leur hébreu archaïque et les ben-youdistes qui, depuis la fin 19e, pratiquent l'hébreu renouvelé. En ce qui concerne la chanson, notons que le peuple juif est un peuple musical. Déjà, le récit biblique est riche en épisodes de chants et de danses et mentionne pléthore d'instruments musicaux. La langue hébraïque abonde de termes et de synonymes relatifs au chant et à la mélodie. La musique fait partie intégrale de la vie de notre peuple. Les pionniers ressentaient naturellement le besoin de chanter en hébreu. En l'absence de compositeurs durant les premières décennies, ils ont adapté les paroles, des paroles hébraïques à des mélodies empruntées à divers registres, chants populaires et comptines de leur diaspora, du répertoire ladino ou hassidique, mélodies du répertoire classique, ainsi que des mélodies druzes, arabes, bédouines, entendues sur place. J'ai un exemple, Shir Avoda. La mélodie est un chant de mariage arabe, Yahalali Yama'ali, entendu par Noir Shapira, qui, labourant un chant à Zichron Yaakov, a conçu des paroles en hébreu en 1895. Yahalali devient Yahalili, ma flûte, et Yama'ali devient Yamali, mon travail.
Alors en fait, là, ce dont vous parlez, ça s'appelle effectivement un contrafactum, mais c'est tout simplement l'adaptation de paroles sur une mélodie préexistante. Mais vous savez peut-être, Théa, que ce ne sont pas évidemment les pionniers israéliens qui ont inventé ça, parce que en fait, depuis tous les temps, les juifs utilisaient ce procédé pour mettre en musique des piyutim, des poésies religieuses, des airs de prière. Et en fait, ils prenaient les airs qu'ils aimaient bien, les airs de leur entourage, et ils plaquaient dessus donc ces paroles. Et ça, je crois que c'est utilisé évidemment dans la continuité pour toute la chanson israélienne.
Oui et
une
non.
Grande partie, enfin des pionniers en tout cas, de ce qu'on appelle des pionniers peut-être.
Des pionniers surtout, non, ça continue après, mais vous savez, c'est une pratique courante même en France.
Tout à fait, tout à fait. On reprend, mais c'est, comme tout le monde a un air dans la tête, c'est facile. On lui plaque donc ouais, les textes, et puis c'est un moyen mnémotechnique de retenir
absolument
la mélodie. Et donc c'était à l'époque pas du tout considéré comme du plagiat. Il n'y avait pas la SACEM qui vous courait après pour vous dire qu'il fallait payer des droits.
Aucun
cas.
J'ai d'ailleurs une conférence entière qui raconte les histoires de chansons. Alors, Made in Israel, en fait c'était Made in Palestine, reprise à l'étranger, avec des mots étrangers.
Super. Alors donc c'est comme ça donc que Atikva a été mise en musique, mais je voudrais revenir à Atikva donc, qui, à la fin du 19e siècle, est encore loin d'être l'hymne national d'Israël, et je voudrais qu'on s'intéresse à l'auteur des paroles de Atikva. Alors qui est-il cet auteur?
L'auteur s'appelle Naftali Herz-Imber. Il est né en 1856 dans un shtetl en Galicie austro-hongroise. C'était un garçon prodige et pas qu'aux yeux de sa mère. À 10 ans, il étudiait déjà la Kabbalah avec les adultes. Il était très indiscipliné et très farceur. Vers 15 ans, il part étudier dans une yeshiva dans la ville de Brody, frontalière avec la Russie, et puis à Lvov, à l'époque ça s'appelait Lambert, aujourd'hui c'est en Ukraine. Comme beaucoup de jeunes de sa génération, il s'attache au mouvement de la Haskala, les Lumières, et commence à voyager. Arrivé à Vienne, il continue pas vers l'ouest, mais suit le Danube vers l'est et débarque en 1877 à Jassy, Iași, en Moldavie roumaine. C'est le berceau du théâtre yiddish d'Abraham Goldfaden. Or, contrairement à Goldfaden, Imber n'écrit pas ses poèmes et bons mots en yiddish, mais en hébreu. Et c'est là qu'il entame les premières lignes, l'ébauche d'Atikva. Notre barde arrive avec ce brouillon à Haïfa, fin 1882, avec les pionniers de la première Aliyah. Il visite les villes et les nouveaux villages bâtis par les pionniers. Les paysages et les réalisations lui inspirent de nouveaux poèmes et en même temps, il taille et polie les vers des 9 strophes d'Atikva, qui sera imprimé dans son premier recueil de poésie hébraïque à Jérusalem en 1886. L'année suivante, un jeune homme nommé Samuel Cohen fait son alia depuis la Bessarabie. Et au lieu de déclamer les vers d'Imbert qui l'ont tant touché, il leur ajuste un chant populaire roumain, la charrue à bœuf, Carol Cuboi.
Prince electricitate, coi ferate si vapori, un che nui erau afflate, mergiau toate per zore. Căci bătrâni erau moi, își mânau carul cu voi, hăiștea, 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 hăiștea. Zburăm pe căi ferate, prin vagoane unde sate, sosind cu capetele sparte, nemâncați și degerați. De cât cu atâtea nevoi, mai bine cu car cu voi, hăiștea, 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 hăiștea.
Alors, Carol Cuboi, un chant roumain, et c'est vrai qu'on entend dans ce chant-là, Tikva, même si c'est pas exactement à la note près l'air de la Tikva, mais ouais. Il y a déjà tout le contour. Et alors, c'est quand même c'est très mystérieux parce que vous savez qu'on recherche toujours l'origine de la Tikva. Il y a même eu, vous avez cité une émission de télé, il y a eu des documentaires faits sur le sujet qui reviennent effectivement en Roumanie, qui sera le berceau de cette ère. Et comment sait-on vraiment que Imbert a pris cette ère? On en a la preuve quelque part ou...
C'est pas Imbert qui a pris cette ère, c'est Samuel Cohen.
Samuel Cohen, pardon.
Et là, il a lui-même témoigné.
Oui.
Ça, il travaillait dans les champs et il voulait chanter et c'est cette musique-là qui lui est venue en tête et donc il était très fier d'ailleurs d'avoir été le premier à chanter à Tikva.
Mais ce qui est incroyable, c'est comment cette ère, il y en avait des centaines à l'époque, est devenu ce tube. Comment il est devenu, il est devenu aussi célèbre d'un seul coup, parce que je suppose que des airs comme ça, il y en avait beaucoup qui circulaient avec d'autres paroles. Et là, vous m'avez dit tout à l'heure que cette ère a été notée, enregistrée.
Oui, hein, très vite, très vite. Très vite. Il y avait des pionniers qui partaient, notamment en Europe, mais aux États-Unis aussi. Et qui chantait en même temps que, enfin, qui apportait en même temps que le vin, l'huile d'olive, l'hébreu, les chansons. Donc, dès 1895, on a la notation d'un cantor à Breslau qui a noté 4 mélodies syriennes.
Incroyable.
Pardon, c'était 4 syrische Lieder.
Oui,
dont Hatikva, qui s'appelle autrement, mais bon...
C'est d'ailleurs à peine 7 ou 8 ans après, la chanson était déjà notée. Il faisait commencer à faire partie du répertoire de ces chants.
Absolument, absolument. Et les enregistrements, immédiatement après.
La date du premier enregistrement, on a une idée ou pas, à peu près début 20e ou...
Oui.
Ça serait, c'est vraiment intéressant.
Le premier enregistrement sur lequel j'ai mis la main.
Oui, il date de quand?
Date de 1904.
1904, oui, donc c'est vraiment tout début 20e. Alors, si jamais vous avez dans vos bagages ou vous retrouvez un enregistrement encore plus ancien, n'hésitez pas à nous l'apporter à l'Institut européen des musiques juives. On en fera une copie pour vous. Et puis, bien sûr, on en donnera une copie à Théa Herzl pour enregistrer sa conférence à chaque fois, elle trouve des nouveautés, qu'elle les intègre à sa conférence. Donc, c'est un travail sans fin et c'est formidable pour ça. Alors, vous m'avez dit aussi tout à l'heure que ce qui est assez étonnant, c'est que cette mélodie va plaire très très rapidement aux pionniers, mais alors pas vraiment aux dirigeants du mouvement sioniste, dont Herzl d'ailleurs, mouvement sioniste donc qui venait de naître à Bâle en 1897, Et cette chanson leur a pas plu parce que notamment le mode mineur, vous savez, le mode mineur c'est un peu triste, on dit en général on oppose le majeur mode gay au mode mineur un peu triste, ne leur semblait donc ce mode triste pas correspondre à la nature d'un hymne. Ils voulaient peut-être quelque chose de plus guerrier ou en tout cas de plus
marseillaise.
Voilà. Et ils ont même lancé un concours pour trouver l'hymne du sionisme, mais en vain puisque les sionistes ont adopté la Hatikva. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que donc on a entendu tout à l'heure cette chanson Karuku Boy qui est l'origine de cette de l'ère de la Hatikva, mais pendant très longtemps et encore aujourd'hui, on entend beaucoup de gens qui disent que la Hatikva en fait c'est une adaptation ou une variation d'un poème symphonique extrêmement connu qui s'appelle La Moldao, composé par Smetana, Bedrich Smetana en 1874. Et ce serait juste donc l'adaptation du quatrième thème de cette Moldao que je vous propose d'écouter tout de suite. Un extrait de la Moldao, son quatrième thème exactement, donc écrit par Smetana en 1874, interprété ici par le Israel Philharmonic Orchestra, dirigé par Itzhan Kertész, et j'espère que je prononce bien son nom. Alors, c'est vrai que c'est encore très très proche de l'ère de la Tikva, mais comment ça se fait que généralement les gens considèrent que c'est ça, enfin que c'est cette Moldao qui est à l'origine de la Tikva?
L'origine de cette légende urbaine est l'interdiction par les autorités du mandat britannique de diffuser à la radio de Palestine mandataire tout autre hymne que le britannique. En fait, c'était un prétexte pour ne pas diffuser Hatikva parce que les Arabes n'avaient pas d'hymne national. Alors, les chargés des missions hébraïques de cette radio diffusaient la Moldao en subterfuge aussi souvent que possible à cause de la similitude. Or, Smetana lui-même a dit que cette mélodie n'est qu'une adaptation par lui, de plusieurs chants populaires qui circulaient dans beaucoup de pays européens. Je vous propose d'écouter trois de ces chants, de Pologne, d'Ukraine, du Pays-Bas, et vous entendrez bien la similitude avec l'air de Smetana et d'Hatikva.
A przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój.
Użyjała Katerina, przybrała z sadą Martyna. Użyjała Katerina, przybrała z sadą Martyna. Oj Martynę, to rodzinę, złataj mękę, umywilu.
Alors, trois chants populaires venant donc de Pologne, d'Ukraine et le dernier de Hollande, dont effectivement, en tout cas, le début correspond tout à fait au début de la Hatikva. Il faut dire, Théa Hertz, que ce début de la Hatikva, c'est une montée. Alors, pour les musiciens, on va dire que c'est une montée de cinq notes, une montée de quinte, hein. Ré, mi, fa, sol, la, la, etc. Et il y a beaucoup, beaucoup d'air qui commencent par comme ça. Donc, c'est pas évident toujours de trouver, mais c'est vrai qu'on trouve beaucoup de chants populaires. Mais là, ça continue encore un peu. Et alors, vous m'avez dit toujours que cette mélodie d'Hatikva comporte évidemment cette série de notes montantes, cette série de cinq notes montantes, mais il y a d'autres éléments, il y a trois éléments en tout. Vous avez un saut d'octave très haut, qui est très typique des chants chassidiques. Et puis à la fin, Eichat, qui est très probablement...
Eichat.
Voilà, vous vous rendez compte, on fait un duo superbe ensemble, il faut qu'on fasse ce duo de l'Hatikva. Alors, qui vient, lui, très probablement d'Europe orientale. Alors, on va s'attarder sur la première partie, Et est-ce que vous avez, dans vos recherches, trouvé la source de cette première mélodie
Dans ma conférence, je propose un voyage musico-archéologique, une odyssée lyrique, retraçant ce thème musical dans plusieurs œuvres, et pas des moindres, du 19e au 17e siècle. Et la source semble italienne, le tube dans les cours nobles de l'Italie baroque, sur lequel il y a des sonates et des variations par plusieurs compositeurs. Ça s'appelle « L'air ou la danse de Mantoue, la Mantovane ». Les paroles de cette canzonetta de printemps ont été composées pile en 1600.
La Mantovana, une chanson ou une danse de Mantoue. Et alors, ce qui est intéressant, vous le savez sans doute, Théa Hertz, c'est que Mantoue, il y a quand même un juif célèbre, un musicien, compositeur qui a officié, entre guillemets, à la cour des ducs de Mantoue, c'est Salomone et Rossi.
Bien sûr.
Et alors, il y a certains qui se disent, mais alors, voyez, c'est peut-être Rossi qui a l'origine de cette ère. C'est toujours la façon de faire revenir les choses dans le giron, entre guillemets, juif. Mais ça reste très mystérieux. On n'a absolument aucune preuve. Mais ce qui est amusant, c'est que cette ère était connue à Mantoue, dans laquelle il y avait une communauté juive, on le sait, bien entendu. Que Mantoue aussi a été envahi par les Autrichiens. Enfin, il y a eu beaucoup de... Et qu'après, beaucoup de Juifs sont partis vers l'Empire, ce qui est devenu l'Empire austro-hongrois par la suite. Et peut-être que cette ère s'est diffusée aussi en Roumanie comme ça. Mais tout ça reste des hypothèses. On n'en sait rien, finalement.
Oui, les ethnomusicologues italiens soutiennent en fait que cette ère s'est répandue dans les Balkans lors du siège d'Héraclion, qui était très, très, très long. Et les assiégeurs, qui étaient des gens du Balkan, au nom de l'Empire turc, ottoman, ont appris la chanson des assiégés qui étaient vénitiens, italiens.
Voilà, oui.
Donc, quand ils sont rentrés, ils ont emmené en même temps que...
Mais c'est un tout petit monde, ça, finalement, parce que on est Mantoue, c'est dans le nord de l'Italie, on n'est pas très loin de l'Europe centrale, on n'est pas très loin non plus des Balkans, de l'Empire ottoman. Donc tous ces airs circulent, et ça, on le voit pour tous les airs de chansons. Mais alors, la souche mélodique, vous dites, elle est ailleurs, elle se trouve où? Alors, dans des chants cantoriaux, je crois.
Oui, tout à fait. D'une part, il y a l'Ashkenaz polonais, nord-ouest allemand, alsacien, dans le chant sabbatique du Yigdal.
Alors, on l'écoute peut-être.
«
Donc, dans la Rasanut allemande, on trouve cette aire du Higdal qui est très proche, effectivement, du début de la Tikva. Mais vous en avez trouvé d'autres.
Bien sûr. Mais déjà, pour la circulation des mélodies, fin 18e, un ministre luthérien est venu à la synagogue de Londres entendre la belle voix du cantor venu d'Allemagne avec cette mélodie, Leon Meyer, alias Léonie, et Thomas Olivers, le ministre, de reprendre la mélodie et lui composer d'autres paroles. Elle s'est répandue dans toutes les églises anglophones. The God of Abram's Praise.
Donc, si je vous suis bien, l'air est passé en fait de la synagogue au temple protestant à travers donc ce pasteur qui est venu écouter cette air. Mais oui. C'est pas tout, je crois.
Absolument. D'autre part, cette même séquence se trouve dans le chant cantorial hispano-portugais. Donc, on descend vers le XIVe siècle dans la prière pascale Hallel. Cette air est chantée Lech le Shalom Geshem, va en paix pluie. Viens en paix, Rosée.
Alors, j'ai une question quand même. C'est comment vous pouvez savoir que c'est du XIVe siècle? La mélodie, j'entends bien. Je ne parle pas des paroles, parce que c'est toujours très difficile de dater une mélodie, comme on n'a pas d'enregistrement, bien sûr. Ouais. On n'a pas de notation musicale.
La première notation date de 1645 ou 75, je ne sais plus.
Ah oui, quand même.
Elle se trouve à l'Esnoga d'Amsterdam.
D'accord. Ah oui, c'est vraiment un air ancien.
Voilà. Ouais. Et elle a été transmise, bien sûr, oralement. Et ce qui est intéressant, c'est que dans toutes les synagogues de rite portugais, cet air est chanté.
Oui, tout à fait. Moi, qui ai travaillé sur les airs bordelais et bayonnais, il y a le même air. C'est absolument, vous avez raison. Alors, continuons donc notre voyage.
Alors, c'est l'une des clés de la traite d'Atikva, la combinaison musicale Ashkenaz-Sepharad. Et une autre réside évidemment dans les vers d'Imber. Notre espoir n'est pas perdu. Odlo avda tikvatenu. Comme le dit si bien le rabbin Jonathan Sachs, l'optimisme est la croyance que le monde change pour le mieux. L'espoir, quant à lui, est la croyance qu'ensemble, nous pouvons rendre le monde meilleur. L'optimisme est donc une vertu passive, tandis que l'espoir est une vertu active. Et c'est bien le vecteur central du sionisme. Nous prenons notre destin entre nos mains.
Alors, sur ces très belles paroles, je vous propose qu'on élargisse un tout petit peu le débat, Théa Hertz. Et vous nous avez apporté des exemples, parce que la plupart des exemples sont fournis par Théa Hertz. C'est formidable, j'ai presque rien eu à faire pour cette émission qu'à vous suivre. Et donc, vous avez apporté des morceaux qui, parce que cette Atikva a inspiré aussi des compositeurs ou des interprètes d'aujourd'hui. Par exemple, la chanteuse française Renée Lebas. Renée Lebas, donc, qui était un petit peu le parallèle de Édith Piaf, elles étaient à la fois amies et concurrentes. Mmh. Et Renée Lebas l'a interprété dans une chanson d'Émile Stern intitulée Garde l'espérance. Et avant d'entendre cette chanson, je voudrais que vous nous disiez juste en quelques mots qui était Émile Stern.
Ah, c'était le lauréat du premier prix de piano au Conservatoire de Paris. Émile Stern était, vers le milieu des années 1930, pianiste de jazz et musicien de scène, notamment pour Maurice Chevalier. Il fut ensuite l'un des artistes polyvalents de l'orchestre de Reventura, et puis, après-guerre, accompagnateur, arrangeur et directeur d'orchestre pour des vedettes de l'époque comme André Claveau, René Lebas ou Jean Sablon. Immédiatement après-guerre, Émile Stern a pris l'initiative de faire une chanson française basée sur Hatikva. Et il a demandé à Henri Le Marchand d'en écrire les paroles. Et René Lebas, revenu à Paris à son Paris natal pour reprendre sa carrière, la chanter à merveille.
Alors on va l'écouter tout de suite.
Garde l'espérance, un autre temps viendra. Ta souffrance demain finira. Garde l'espérance, ne crains jamais le sort. En silence, résiste et sois fort. Une étoile dira le retour de tes rêves des anciens beaux jours. Et ta peine alors sera peine, car le monde chantera l'amour. La brise gémit, les oiseaux n'ont plus de chansons, et seul, sans amis, la vie te semble une prison. N'entends-tu pas quand vient la nuit, dans le lointain, la voix qui dit: garde l'espérance, un autre temps viendra, ta souffrance demain finira. Garde l'espérance, ne crains jamais le sort. En silence, résiste et sois fort. Une étoile dira le retour de tes rêves des anciens beaux jours. Et ta peine alors sera peine, car le
hasard ou coïncidence, Stern et Leba étaient nés à Paris de parents juifs originaires de Roumanie.
Ouais, on retrouve toujours la Roumanie quelque part. Et on va parler de quelqu'un d'autre, un compositeur qui lui n'était pas originaire de Roumanie. Il s'agit du célèbre compositeur Kurt Weill, qui a, lui aussi, on le sait moins, réalisé une orchestration de la Hatikva. Et ce, je crois, dans des conditions assez rocambolesques. Alors, pourriez-vous nous raconter cette anecdote, hein?
Fils d'un cantor à Dassau, le compositeur Kurt Weill a dû fuir l'Allemagne nazie et aux États-Unis où il a été accueilli, il a fréquenté des cercles sionistes. En novembre 1947, à la veille de la décision historique de l'ONU, Chaim Weizmann, futur président de l'État d'Israël, devait présider un gala au Waldorf Astoria, New York City, célébrant son 73e anniversaire et une levée de fonds pour l'Institut des sciences à Rehovot qui porte depuis son nom. En vue de cet événement, il a demandé à Kurt Weill, qu'il a rencontré quelques mois auparavant, lorsque ce dernier a rendu visite à ses parents en Palestine mandataire, de composer une orchestration d'Hatikva pour le concert de gala avec l'Orchestre symphonique de Boston sous la baguette de Serge Koussevitzky. Le vote des Nations Unies, quelques jours après, a eu une réception un peu plus enthousiaste que la déconcertante orchestration de Weill que je vous propose d'écouter.
Thank you.
la Tifa-femme est dans l'orchestration de Kurt Weill, et c'est vrai que c'est une version assez décoiffante. Ça m'étonne guère que ça ait enthousiasmé la foule, parce qu'on dirait vraiment un peu l'opéra de Katsour. Enfin, c'est du Weill, c'est du Kurt Weill, plus qu'un hymne national. Herzl aurait été content parce que ça finit en majeur à la fin. Donc l'espoir est quand même là. Mais ça m'amène un peu la question suivante. Est-ce qu'il y a une version officielle de la Tikva en Israël? Parce que moi, quand j'étais en Israël, souvent à la fin, à la radio, on entend la Tikva quand les émissions se coupent. Et je voudrais savoir, dans ce cas-là, qui a orchestré cette version?
Alors d'abord, il n'y a pas de version officielle de la Tikva. Il y a une version jouée par les orchestres symphoniques israéliens. Et cette orchestration est celle du chef d'orchestre italien, Bernardino Molinari, qui est arrivé en octobre 1945 en Palestine mandataire à bord d'un destroyer britannique, déclarant qu'il est venu à la suite d'une vision de la Vierge Marie.
C'est quoi cette histoire encore? C'est incroyable.
Le maestro a dirigé durant 3 ans l'Orchestre symphonique de Palestine, fondé en 1936 et devenu en 1948, à la suite de cet hymne qu'on a joué en premier, Orchestre philharmonique d'Israël. Dans son orchestration de Hatikva, pour chœur et orchestre, aux cordes veloutées, celles de l'orchestre, n'est-ce pas? Et grâce au perspicace contrepoint qu'il introduit, l'air mineur gagne en amplitude et en profondeur.
Alors, on va l'écouter, puis après, j'aurai quand même une question à propos de Molinari que je vous poserai après avoir entendu quand même cette version molinarienne de la Hatikva. Alors, la version donc de Bernardino Molinari, donc de la Hatikva, celle que l'on entend partout, est une version absolument magnifique. Et comme vous l'avez dit, on en discutait pendant qu'on écoutait cette version de la Hatikva. Molinari, c'est lui qui était un petit peu à la base de l'orchestre de l'État d'Israël, de l'orchestre symphonique d'Israël. Les musiciens l'adoraient. Mais est-ce que vous dites c'est suite à une vision, enfin lui dit que c'est suite à une vision de la Vierge Marie. Est-ce que les Italiens ont eu un rôle pendant la guerre? À un moment où ils étaient alliés avec les Allemands, il y avait peut-être une notion un petit peu aussi, quelque part, d'apporter sa pierre pour construire cet État, peut-être.
C'était peut-être sa manière d'expier, parce que effectivement, pendant la guerre, j'ai même un morceau de film où il joue devant Mussolini.
D'accord.
Il est resté en Italie. Et quand il est rentré en Italie en 1948, on lui a fait un procès. Mmh. À la suite duquel il s'est retiré et a passé ses 5 dernières années en solitude dans un couvent.
D'accord.
Mais l'orchestre l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié. L'orchestre philharmonique d'Israël.
Oui, c'est pour ça que je disais, il a fait après un travail absolument fantastique.
Oui, donc c'était peut-être sa manière d'expier.
Ok, bah écoutez, alors en tout cas, il nous a laissé cette orchestration. Absolument. Qui est magnifique. Et bah, le temps passe vite, alors on va entendre peut-être une dernière version de la Tikva, celle de Stanley Black. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire qui est Stanley Black ? Et puis après, on entendra juste un extrait, un court extrait, parce que notre émission devra se terminer. Alors, en quelques mots, qui est Stanley Black ?
Alors, né Solomon Schwartz à Londres en 1913, Stanley Black était un compositeur, chef d'orchestre, pianiste et arrangeur britannique. En 1965, il a publié un disque, Music of a People, la musique d'un peuple, consacré à des chansons juives et israéliennes, où il dirige le London Festival Orchestra et Chorus. Son arrangement d'Hava Nagila est souvent employé par les patineurs artistiques ou les gymnastes. Celui d'Atikva est un poème symphonique, et faute de temps de l'écouter en entier, je vous propose qu'on écoute juste la finale.
Alors, sur cette version très hollywoodienne, presque, de Stanley Black, de la Hatikva, nous allons devoir conclure cette émission. Chères auditrices, chers auditeurs, je voudrais en votre nom remercier tout particulièrement Théa Hertz pour tous les détails passionnants qu'elle nous a livrés ce soir sur la Hatikva, cet hymne mystérieux dont on n'a pas fini de découvrir de nouveaux ancêtres. Alors, si vous voulez en savoir plus ou tout simplement... apprécier encore plus cette conférence magnifique que va réaliser donc Théa Hertz. Je vous invite vivement à venir donc le 13 juin prochain à 18h à la mairie du 3e arrondissement de Paris. L'entrée est libre si je ne me trompe pas. Cela se passe dans le cadre du Festival des Cultures Juives 2018. Donc notez bien sur vos agendas le 13 juin 18h, mairie du 3e arrondissement de Paris, la conférence Hatikva, Odyssée lyrique, histoire et origine de l'hymne national israélien qui sera donné par Théa Hertz. Autre annonce qui n'a rien à voir avec cette conférence, mais cela se passe le 16 juin au studio Regard du Cygne à Paris dans le 20e arrondissement. La clarinettiste Claudine Movsession et la pianiste Martine Vialat nous interpréteront Vanigunim, une création originale dont la partition vient d'être éditée par les éditions de l'IEMJ. Il y aura également en seconde partie un duo pour piano et tabla, 2 heures de concert pour 15 euros seulement. Plus de renseignements au 06 38 29 02 91 ou bien sûr sur le site de l'Institut européen des musiques juives, vous connaissez l'adresse iemj.org, où vous pourrez également réécouter cette émission sur la Hatikva en podcast, ainsi bien sûr que sur judaïquefm.com dans la rubrique podcast. Au micro, Hervé Roten, David à la technique. L'Institut européen des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée en musique bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Roten sur Judaïque FM.
Sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey.